Grain de sel, l'émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je suis à Bay, à la salle polyvalente, où va avoir lieu une réunion publique concernant face au manque de médecins, résultat de l'enquête. Donc, c'est organisé par l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le pays de Valois, auprès de la population du canton de Bay, l'ancien canton de Bay. Quelle solution pour retrouver des médecins? Donc, ce débat est public avec la participation du docteur Richard Lopez, président de la fabrique des centres de santé.
Nous remercions d'abord Madame Doléan, maire de Bay, de nous accueillir une fois de plus dans la salle, la grande salle de Bay, la salle polyvalente. Je voudrais présenter tout de suite donc les présents à notre réunion. Je remercie Frédéric de la radio locale RVM qui à chaque fois donne écho à notre initiative, à nos réunions, qui permet comme ça aussi ceux qui ne sont pas présents d'être informés après coup. Ici, le docteur Richard Lopez, qui parcourt la France, président de la fabrique des centres de santé. Et donc là, nous sommes les membres du bureau de l'Association citoyenne des centres de santé dans le pays de Valois. Alors, c'est un nom invraisemblable, mais qui explique, voilà, ce qui est bien. Notre
objectif. Daniel Préaul, vice-président. Je remercie Fred parce qu'on a fait deux enregistrements sur RVM pour le futur. Après, on est en vacances.
Voilà, et moi-même, Hélène Mazur. Et la dame qui arrive là, qui est Martine.
Martine Giton, la trésorière de l'association.
Voilà. Donc, et moi-même qui suis la présidente. Évidemment, la première chose, c'est le retour de vos questionnaires. On a appelé ça la carte enquête, voilà, parce que pour nous, c'était un premier principe, si vous voulez, c'est de donner la parole aux premiers intéressés, c'est-à-dire les patients et les patients. Voilà. Et nous avions déjà fait ça précédemment et nous avons vu que ça permet après de créer des liens et de poursuivre, d'entamer et poursuivre une action. Pour vous rappeler donc que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, ça a demandé plusieurs semaines de distribution, plus de 4000 boîtes aux lettres dans le canton. Nous tenons à remercier donc les habitants qui nous ont aidés à distribuer, des élus, et aussi les pharmacies qui ont recueilli, donc en particulier la pharmacie de Bay, merci madame, qui ont recueilli la pharmacie d'Assy, la pharmacie de Marouet, pardon, donc qui ont recueilli le questionnaire. Et c'est vrai que vous en avez eu combien des différentes pharmacies?
La pharmacie de Assy, 38 réponses qui concernent 59 personnes. La pharmacie B, 105 réponses, 213 personnes.
Et ensuite,
Marouet, 19 réponses pour 22 personnes concernées. Et puis la mairie de Turin qui a fait aussi une réception.
Oui, il y a eu toute une...
Et puis nous les envoyer par la poste.
Donc, voilà.
Il y a plus les mails et les courriers.
Il y a eu toute une mobilisation à Turin avec les habitantes avec qui j'ai distribué, je ne sais pas si elles sont dans la salle.
Et
qui ont parlé de Jondel, et voilà. Donc, ma foi, c'est comme ça que je suis arrivée. C'est si chacun, ceux qui peuvent, chacune... il met du sien. Parce que c'est quand même une question qui nous intéresse. Hein, c'est nous qui sommes concernés. On va en parler après. Les différentes solutions, entre guillemets, mises en œuvre, ne donnent pas toujours des résultats. Eh bien, il faut y aller. Alors, donc, les questions, c'était d'abord... alors, évidemment, ce sont, je vous le dis quand même d'emblée, les personnes qui étaient le plus en situation difficile qui ont répondu. Donc on ne va pas prendre ça comme une statistique sur l'ensemble de l'ancien canton de Bay. Le docteur Lopez nous donnera quelque chose qui vient de la CPAM tout à l'heure. Mais donc quand même, nous avons eu 364 réponses qui concernaient au total 703 personnes. Je pense quand même que ça donne un nombre intéressant pour une statistique. Eh bien, sur ces 703 personnes, eh bien, il y en a 424 qui n'ont plus de médecin traitant, ce qui est considérable. Ça fait 59,45%. Dans celles qui craignaient de manquer de médecin, 215 étaient concernées, soit 30,29%. Et on sait bien, les médecins du secteur sont proches de l'âge de la retraite. Donc, voilà. Enfin, c'est les personnes qui avaient bien un médecin, mais ailleurs que dans leur propre commune, c'est 22,47%. C'est quand même aussi beaucoup, 159 personnes. Alors, sur les... Évidemment, il y avait les trois communes concernées qui sont Assy et Barœul, il y a les médecins, et Rozoy. Bon, quand on est à 5 minutes, 10 minutes, dans un quart d'heure encore d'un médecin, si on a moyen de transport, ça peut aller. Mais écoutez bien, nous avons eu des réponses qui montrent que c'était bien au-delà. Alors, quand même, le plus de patients qui consultent, c'est la commune de Crécy-en-Valois. À plus forte raison depuis qu'il y a le centre de santé, puisqu'il y avait donc 36 personnes, donc celles qui vont hors de leur commune. Donc tout à l'heure, on parlait des communes du secteur Marœuil, Accueillet 24, Assy 5, Baie 5, Rozoy 4. Évidemment, dans ceux qui nous ont répondu. Maintenant, Baie, il n'y a plus personne, donc c'est zéro. Mais là où nous avons été étonnés, c'est tous les habitants qui habitent, qui doivent aller. Alors, il y en a quelques-uns qui vont encore dans le département, pas à côté du tout, dans l'Oise, donc Senlis, Venette, c'est quand même pas à côté, Venette, Verberie, voilà les autres communes, donc il n'y a plus Compiègne, puisque Compiègne vient à Crépy-en-Valois, étant maintenant en désert, en désertification. Et dans les départements, on s'en parlait tout à l'heure, plus précisément, donc on comprend dans les départements voisins comme l'Aisne, 8 personnes. Après, c'est surtout en Seine-et-Marne, 31 personnes, c'était en Seine-et-Marne. Ensuite, c'est dans la Seine-Saint-Denis, 11 personnes. Et après, c'est une personne par-ci, par-là, mais je vous cite les départements. Donc, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, c'est pas à côté, hein, tout ça. Vraiment, la situation, je dirais, de couverture médicale est détériorée dans ce secteur. Ah, la bonne vécue, mais là, on voit, on a des faits. Et d'ailleurs, le docteur Lopez, qui a un petit peu travaillé la question, peut nous dire combien d'assurés sociaux, par rapport à la population, n'ont plus de médecins.
J'ai 1300, non, c'est bien 1400 habitants qui n'ont pas de médecin traitant.
Donc ça doit englober un peu plus que le canton de Baie.
Il y a Nanteuil.
J'ai 25 communes.
25 communes, non, c'est l'ancien canton de Baie.
Il y a pas Nanteuil.
Il y a 13 000 habitants.
Non.
Oui, 13 000 habitants sur l'ancien canton.
Donc il est urgent. Il est urgent, comme l'ont dit certains dans leur réponse par mail. Oui, il faut s'en occuper. Hein. Nous avons eu des petits mois. Alors, on voulait vous dire, on n'a pas pu, informer tout le monde de manière personnelle. Ceux qui nous avaient envoyé par mail, oui, on a récupéré les mails. Ceux qui nous ont envoyé d'une autre façon, même en mettant leur adresse mail, on n'a pas pu tout enregistrer. Donc, ça va se faire petit à petit, et comme ça, vous serez sur la liste pour recevoir les informations. La question maintenant, évidemment, c'est quelles sont les solutions possibles. Donc, dans la communauté de communes, donc il y a deux communes qui se sont lancées dans ce qu'on appelle les maisons de santé, c'est-à-dire un bâtiment qui héberge des médecins, ou pas que des médecins, des professionnels de santé libéraux. Donc c'est la commune de Maurienval qui pour le moment donc a bien, qu'est-ce qu'elle a dans ses locaux?
Une infirmière.
Voilà. Et le médecin, c'était un médecin qui va partir en retraite. Ce n'est pas un nouveau médecin. Donc voilà, elle n'a pas recruté de nouveaux médecins. Alors que c'était l'objectif. Et d'autre part, la commune de la Ligne Sec, qui donc elle a fait un grand bâtiment avec l'hypnothérapie, etc., où il y a effectivement des kinésithérapeutes. Donc elle a d'abord accueilli les médecins qui venaient du Plessis-Belleville, donc pas des nouveaux. Mais après, selon M. Doucet, qui est maire de la commune et président de la commune, il y a eu un nouveau médecin qui est arrivé. Donc, pour le moment, un nouveau médecin, c'est un beau bâtiment quand même. Mais c'est tout. Sur le total des cabinets qui ont été, désertés parce que les médecins sont partis en retraite, il n'y en a pas d'autres. Donc, cette question, d'espérer en faisant un beau bâtiment neuf et aussi en proposant des aides financières à l'installation. Alors là, il y en a de tous côtés. La CPAM offre, je ne sais plus combien, mais à l'installation. Le département de l'Oise est très généreux pour l'installation du médecin, la communauté de communes, oui, il y a aussi l'ARS, mais je crois que c'est quand il y a une maison de santé qui se constitue. Donc, tout ça, ça devrait aider. Eh bien, toutes les enquêtes montrent, les enquêtes, que ce soit l'Ordre des médecins, que ce soit des organismes de santé, etc., que ce ne sont pas les aides financières qui attirent les médecins. Et ils le disent concrètement, je crois qu'on l'avait déjà abordé la dernière fois, c'est avant tout, je dirais, des conditions de travail qui leur permettent une vie équilibrée, une vie familiale, concilier la vie familiale et professionnelle, et aussi s'occuper de leur cœur de métier, de soins. Et non pas de gérer un cabinet, de s'occuper de l'administratif qui est de plus en plus, qui gonfle comme partout, etc. C'est pour cela que nous avons invité le docteur Lopez, qui maintenant va se présenter.
Bien, donc je suis Richard Lopez, médecin généraliste. J'ai été directeur des services de santé de la mairie de Champigny dans le Val-de-Marne et ensuite directeur de la santé de la mairie de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. J'ai été président de la Fédération nationale des centres de santé. Et à la fin de ce mandat de président de la Fédération, c'était le début des difficultés. C'était pas le début parce que ça avait commencé, mais ça devenait de plus en plus difficile. Et nous étions de plus en plus sollicités par des élus locaux, surtout, puisque la fédération regroupe principalement des élus locaux et des associations, des centres de santé municipaux ou associatifs. Et donc, on était sollicités par de plus en plus d'élus locaux qui souhaitaient qu'on les aide à trouver des médecins. Le problème, c'est que pour qu'une collectivité locale puisse recruter des médecins, elle ne peut pas le faire comme ça, puisque pour exercer la médecine, il faut être soit en activité libérale, soit en activité salariée. Donc il fallait que le médecin puisse avoir une activité salariée. Donc la seule structure qui permette à un médecin d'être salarié en médecine de vie, en médecine ambulatoire, c'est un centre de santé. Donc il fallait qu'on explique déjà aux élus locaux que pour recruter des médecins, ils ne pouvaient pas le faire comme ça, qu'ils étaient obligés de créer un centre de santé, et que pour eux, c'était une opportunité parce que ça leur permettait de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la politique municipale de santé. Ils ont souvent une politique municipale pour les personnes âgées, pour l'enfance, pour l'activité physique, sportive, mais sur la santé, il y avait une vieille rengaine qui traînait dans la tête des élus, c'est la santé ne relève pas de la compétence des villes. On est bien d'accord, Madame le maire, c'est ce que tout le monde, tous les élus disent. Alors que ce n'est pas tout à fait exact, parce que les communes ont ce que l'on appelle la clause générale de compétence et elles ont le droit d'agir dans tous les domaines qui sont nécessaires à l'équilibre et à la bonne marche de leur collectivité. Cette clause générale de compétence avait été retirée au département dans le cadre de la loi NOTRe, la nouvelle organisation des territoires de la République. Elle avait été retirée également aux régions. Donc les régions et les départements ont des missions bien déterminées dans lesquelles ils peuvent agir, alors que les communes peuvent agir dans tous les domaines. Ils peuvent créer un cinéma, une station d'essence, une installation sportive, une installation médicale. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pas du commerce, quoi. Et donc, les communes ont le droit de faire quelque chose. Et les communes sont, et les élus locaux, sont les premiers destinataires des doléances des habitants. Il y a un problème de voirie, monsieur le maire, madame le maire, qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème de bruit, de voisinage, madame le maire, qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème, ça manque de travail, madame le maire, qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème de médecin, madame le maire, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et les élus locaux reçoivent tout. Alors, il y a des choses avec lesquelles ils essayent de se débrouiller, mais sur la question médicale, donc la réponse était oui, mais c'est le rôle de l'État. L'État doit assurer financièrement le fait que ça puisse se faire. Mais l'État a une responsabilité de sécurité sanitaire, c'est-à-dire qu'il doit veiller, on l'a vu pendant la crise du Covid, on l'a vu prendre des décisions parfois très autoritaires pour garantir la sécurité sanitaire. Mais l'État, dans l'organisation du système de santé médicale en France, n'a pas d'obligation de garantir un médecin à côté de chaque curé qu'il n'y a plus dans les églises de chaque village. Donc il y a des situations que les élus locaux nous signalaient, nous rapportaient, et nous, en tant que Fédération des centres de santé, on était bien en peine parce qu'on n'était pas outillés pour faire ça. Donc mes petits camarades ont sournoisement pris la décision que, profitant de ma retraite, ils allaient créer, et on a créé une structure pour porter un accompagnement avec des intervenants, essentiellement des intervenants de centres de santé, qui sont en général soit des directions administratives, soit des directions médicales de centres de santé, et soit en activité, soit en retraite, beaucoup de retraités. Et donc avec cette task force, on a accompagné, et le premier dossier que nous ayons été amenés à accompagner, c'est celui du conseil départemental de la Saône-et-Loire. Tout à l'heure, je vous ai bien dit qu'un département n'a pas le droit de créer des centres de santé. Le président du département de la Saône-et-Loire, il a dit, RAB, qui viennent m'embêter, parce que moi, dans mon territoire, j'ai plus de médecins. On a essayé d'aider tous les libéraux qui voulaient venir, ils ne sont pas venus. Maintenant, je suis obligé d'agir. Donc si on veut m'empêcher de le faire, ben, que le préfet me défère au tribunal administratif, mais j'agis et je crée un réseau de centres de santé et j'ai l'ambition de recruter 30 médecins. Donc c'est sur cette base. Donc, moi j'étais président de la fédération à l'époque, je me disais ça ferait mauvais genre qu'un préfet attaque un président de département là-dessus. Donc on est intervenu auprès du ministère de la Santé qui est intervenu auprès du ministère de l'Intérieur pour avoir une lecture bienveillante de la loi, et ils s'en sont sortis en disant à partir du moment où le centre de santé embarque les missions du département que sont PMI, personnes âgées et personnes en situation de handicap, un département est légitime pour gérer un centre de santé. Le jour de l'inauguration du premier centre de santé de Saône-et-Loire, le préfet n'était pas venu, mais la modification, l'arrêté permettait, il y a un texte qui permettait que le département puisse créer, d'ailleurs heureusement, parce que le département qui était initialement parti pour créer 4 centres de santé, on a créé 6, bientôt 7, et il était parti pour recruter 30 médecins, il en est à plus de 75. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Lorsqu'une collectivité prend la décision politique de faire quelque chose, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Ça veut dire que les élus locaux ont la légitimité de représenter la population qui a un vrai problème, et que c'est compliqué pour un pouvoir politique, quel qu'il soit, de dire on va empêcher le maire d'agir dans un domaine où il y a une nécessité à agir. Donc, de ce côté-là, ça ouvert la voie, ça a décomplexé beaucoup d'élus locaux, parce que, pour le coup, je crois qu'on en est à une quinzaine de départements en France qui ont suivi la Saône-et-Loire et qui ont décidé de mettre en place des centres de santé. Il y a deux régions. Alors là, pour le coup, là, elles agissent totalement à la one again. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les autorise à le faire, mais il y a la région Centre-Val de Loire, qui est la région la plus désertifiée de France en matière de médecine, et la région Occitanie, qui ont pris la décision de créer un groupement d'intérêt public, tel pilote, et de mettre en place dans tous les territoires, au fur et à mesure, dans tous les territoires de leur région, des centres de santé. Donc c'est vraiment maintenant un outil qui est important parce que il vient en contrepoint d'un élément contre lequel aucun politique n'a pu agir, c'est la liberté d'installation des médecins. C'est une vieille discussion qui revient très souvent. Il n'y a plus de médecins dans les territoires, il faut obliger le médecin à venir. On peut l'envisager. Il y a depuis très longtemps des obligations pour les pharmacies, par exemple. Il n'y a pas plus de temps de pharmacie dans un territoire. Mais il n'y a pas d'obligation d'installation pour les pharmacies. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des pharmacies qui ont disparu, qui ne sont pas remplacées, et il n'y a plus rien qui vienne permettre de répondre à cette mission. Les pharmacies ne sont pas un bon exemple. Il y a un autre exemple, c'est il y a une école dans tel endroit, l'éducation nationale met un enseignant. On ne demande pas à l'enseignant s'il veut venir enseigner dans cette école. Mais là, on est dans un service public qui relève de l'autorité de l'État. Donc, on n'est pas dans un service public qui relève de l'autorité de l'État en matière de médecine. Donc, comment faire pour obliger des professionnels de santé à venir dans un endroit où ils ne veulent pas s'installer, alors que la loi, article L162-2 du Code de la Sécurité sociale, dit, entre autres droits exorbitants des médecins, ils ont la liberté de s'installer où ils veulent. Donc, la seule solution, c'est de mailler le territoire. Et là, c'est une décision politique, c'est mettre un maillage de centres de santé, parce que le centre de santé est la seule structure où c'est le politique qui recrute le médecin. On ne dit pas au médecin tu viens travailler si tu veux. Non, là, j'ai 10 postes de médecins que je crée, je lance une campagne de recrutement, je cherche des professionnels et je donne un cadre de rémunération et un statut de salarié qui n'a rien à voir avec la situation des libéraux. Et ce statut de salarié et ce cadre de travail qui protège la vie privée des gens, parce qu'un salarié, c'est encore en France 35 heures par semaine, même si les médecins font des semaines de 40 heures, parce que quand on a des amplitudes d'horaire d'ouverture d'un centre de santé de 8 heures à 20 heures, c'est un peu con de commencer à 9 heures et de terminer à 18 heures ou à 17 heures 30. Et d'avoir les extrémités qui sont vides. Donc, on fait des journées de 8h à 20h, avec un trou pour manger au milieu, avec un chevauchement. Mais ça fait des journées de 10 heures, mais ça fait des semaines de 4 fois 10 heures, de 40 heures, et ça fait des RTT, parce que sur l'année, en moyenne, les professionnels feront leurs 1607 heures, comme tous les salariés dans n'importe quelle collectivité locale. Donc, ouais, cette organisation-là, qui relève de la gestion de services publics, est pertinente, efficace, et arrive à mettre de la médecine là où il n'y en a plus. Parce que les jeunes professionnels attendent une autre façon d'exercer la médecine que celle qui a toujours été l'exemple en France, qui est la médecine libérale. Il n'y a plus d'attractivité de la médecine libérale pour les jeunes, parce que ce n'est pas... Hélène disait tout à l'heure, les médecins, ce qui les attire, ce n'est pas forcément le salaire, enfin, ce n'est pas forcément le financier. C'est d'abord pour faire quel type de médecine, quelle activité, avec qui, avec quelle population, dans quelles conditions de travail. Être seul, alors qu'on a passé son temps à la fac et à l'hôpital à apprendre à travailler en équipe, travailler seul, c'est mort. Plus un seul médecin ne veut faire ça. Travailler dans une maison de santé, qui est une bonne façon, puisque c'est un travail regroupé, avec une pratique d'équipe, mais quand on est dans une maison de santé, on est libéral. Ça veut dire qu'on a investi, pas simplement affectivement, on a investi aussi des moyens, puisque ce sont des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, donc ce sont des sociétés, et ces sociétés-là, on ne part pas comme on veut. C'est... Or, qu'est-ce qui est actuellement une des caractéristiques de la jeunesse? C'est sa mobilité. Un jeune médecin, son mari ou sa femme, n'est pas forcément médecin, mais par contre, il est plutôt travaillant dans des catégories sociales, plutôt cadre, technicien, profession intellectuelle supérieure ou autre. Donc, ils ont, ces autres compagnons et compagnes, leur propre carrière à dérouler. Et souvent, dans ces carrières-là, il y a d'obligations de mobilité. Donc, comment est-ce qu'un médecin qui est marié avec un ingénieur qui doit changer de boulot et aller à l'autre bout de la France, il fait quoi? Ils vont faire des gosses par Skype ou en Zoom? Donc, je sais que la visio, ça a beaucoup développé avec le Covid, mais on a du mal à faire des enfants en télévision. Donc, ça me fait une ouverture pour parler tout à l'heure, on reviendra sur les téléconsultations avec les cabines de téléconsultation. Mais en tout cas, c'est pas une... Donc, les jeunes ont besoin d'avoir la souplesse de bouger. Voilà. Donc, il faut qu'ils puissent plaquer leur cabinet. Quand on est salarié, on donne sa démission aux 3 mois. Voilà. Et au bout de 3 mois, ben, c'est bon, ciao, je suis parti. Et charge à l'employeur de recruter et d'assurer la continuité du fonctionnement. Dans un cabinet, c'est mort. Donc les jeunes veulent bien avoir des remplacements et ils font. Et un très grand nombre, y compris plusieurs années après leur thèse, continuent de tourner en ne faisant que des remplacements jusqu'à ce que leur vie se stabilise, ce qui n'est déjà pas très stable que de faire des remplacements. Mais c'est la seule façon qu'ils puissent avoir de travailler sans être obligés d'être coincés dans un endroit par leur profession. Donc vous voyez, c'est... Le centre de santé, à la fois, c'est un outil pour les élus locaux pour organiser une réponse de santé publique sur leur territoire. C'est un outil pour les habitants parce que ça leur garantit qu'un médecin traitant soit là, même si le médecin il s'en va, même s'il est en vacances, le gestionnaire du centre de santé assure la continuité et recrute et veille à ce que ça tourne. Et c'est un outil essentiel pour les professionnels parce que ça leur garantit un temps de travail équilibré, respectueux de leur vie professionnelle. Ça leur donne de la souplesse dans la gestion de leur carrière. Et surtout, ça leur permet de travailler dans des conditions d'exercice en articulation avec plein d'autres professionnels qui, enfin, correspondent à ce que l'on attend de la médecine du 21e siècle, où on n'est plus, le médecin n'est plus le bon Dieu tout seul dans son coin, mais il est un parmi une équipe qui prend en charge les patients sur un territoire.
Est-ce qu'on a déjà une date pour un aménagement de ce centre de santé sur Baie ou les environs?
Alors sur Baie, je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la tête des élus locaux, mais je peux vous dire que en général, quand la fabrique est sollicitée pour accompagner un projet, le projet aboutit entre le moment où la décision de créer le centre, la décision politique, Et la mise en œuvre, la création, le travail, le premier patient reçu, il faut compter à peu près 6 à 9 mois. Plutôt 9 que 6.
Le premier centre de loi, c'est un voyant que nous avons visité 2 fois, ils ont mis 6 mois, mais tout le monde était d'accord dès le départ.
Là, on a le centre qui est construit, enfin, pourquoi on n'arrive pas à trouver 2 ou 3 médecins qui gèrent ce centre en tant que. Ça fait 10 ans que je suis là, moi. On est venu ici parce qu'il y avait une école, parce qu'il y avait un médecin, parce qu'il y avait une épicerie, il y avait une pharmacie, il y avait tout ça. Maintenant, les gens ne vont pas venir, enfin, ils arrêteront de venir parce qu'on a un cabinet médical, mais vide. Donc, pourquoi on n'arrive pas à le remplir? Pourquoi on n'arrive pas à trouver au moins 2 médecins qui, comme il y avait avant?
Ça, c'est une réponse peut-être de Madame le maire.
L'infrastructure,
c'est bête, c'est chez vous.
C'est pas vraiment une infrastructure, vous avez un cabinet. De médecins libéraux, d'accord? Et donc, c'est ça.
Mais avant,
et bien ça fonctionne jusqu'à ce que le médecin en question parte en retraite.
Oui.
Et donc, c'est bien ce qu'on dit un peu et que le docteur Lopez a dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, les générations de médecins ne veulent pas continuer dans les mêmes conditions que leur prédécesseur à exercer.
Ça, j'ai bien compris. Mais là, il y aurait, comme avant, il y avait deux médecins, on pourrait faire une équipe ici, pareil. Enfin, je veux dire,
c'était pas une structure, c'était deux médecins parallèles, oui, si j'ose dire.
Mais ils étaient libéraux. C'était des médecins qui étaient libéraux, donc chacun a vécu sa vie. Le vieux est parti à la retraite, la jeune est partie ailleurs. Ils étaient associés, mais c'était de l'activité libérale. C'est-à-dire que la collectivité n'avait strictement aucun droit de regard ni d'action. Par contre, vous avez évoqué quelque chose qui me paraît très important à dire. Vous avez dit, les gens ne vont plus venir. C'est vrai que l'offre de soins est un élément majeur de l'aménagement du territoire et de maintien de la vie dans les territoires. Quand vous avez des territoires où vous n'avez plus de gare, plus de la poste, plus de poste de police ou de gendarmerie, plus de services publics, les écoles, il faut faire un ramassage sur 5 villages pour ramener dans un endroit. Enfin, il n'y a plus rien. C'est évident que ce sont des villages qui sont destinés à disparaître. Et ces élus locaux, et c'est d'ailleurs ce qui anime essentiellement les élus locaux, c'est la volonté de maintenir en vie leur territoire. Parce que c'est pour ça que, alors c'est rarement un village tout seul de 1000 habitants qui décide de créer un centre de santé. Parce qu'il faut qu'il y ait un bassin de population pour travailler et pour faire vivre une équipe. Mais, et puis maintenir et lancer le projet. Mais ce sont ceux qui ont le plus, par exemple au niveau des communautés de communes, on a énormément de projets de centres de santé qui sont pilotés par des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, parce que l'organisation de la santé ambulatoire est un des éléments essentiels de l'aménagement du territoire pour elles. Maintenant, vous avez, comme dans beaucoup d'endroits, Hélène l'a cité, il y avait un endroit où il y a une collectivité qui a créé une maison de santé en disant « voilà une belle cage toute dorée, bien peinte et tout, mais on ouvre grand les portes et on attend que les oiseaux y rentrent tout seuls. » Parce que nous sommes dans un système libéral où ce sont les médecins qui décident de venir ou pas. Et là, en ce moment, c'est ou pas.
Pour répondre à votre question, pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas, je vais juste citer un petit peu ce qui s'est passé à Crépy-en-Valois. C'est dans les années, je ne sais pas, 70-80, que, donc sous l'impulsion du maire de l'époque, le docteur Michel Dupuis, 71, donc les années 70, il a ouvert, alors là, il était à la pointe, donc ce qu'on a appelé la maison médicale de Crépy-en-Valois, qui était un regroupement de médecins, au départ, de quelques médecins
libéraux, généralistes,
qui ont été contents de se retrouver ensemble dans la même unité, où ils ont pu regrouper comme ça, évidemment, des services communs, hein, et où il y a eu des infirmiers, des kinés, et aussi faisaient venir des spécialistes, d'ailleurs, il y a même une maison des spécialistes. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Enfin, vraiment, ça a très bien marché. Il y a eu l'installation d'un laboratoire d'analyse, du centre de radiologie, etc. Ça a fonctionné, on va dire, jusqu'aux années, peut-être, 90, à peu près. Mais, donc, ces médecins de départ, eh bien, au fur et à mesure, ils sont partis en retraite.
12
maximum. Pendant ce temps-là, il faut savoir qu'à cette époque, il y a eu ce qu'on appelait le numerus clausus, c'est-à-dire réduction, moi je résume comme ça, du nombre de places pour des étudiants, pour étudier en médecine. Et ce numerus clausus a été catastrophique, parce qu'en même temps que la population augmentait, que les besoins de santé augmentaient aussi, il a réduit le nombre de médecins dans la population d'une manière drastique. Donc, vous avez eu ces phénomènes. Et au fur et à mesure, donc, ce que nous raconte le docteur Dahan, qui était dès le début quasiment, et qui est à l'origine du centre de santé de Valois, ils ont s'y retrouvé de moins en moins. Donc, ils ont été 12, puis 10, puis 8, puis 6. Et donc, les frais de gestion, parce que c'est ça, un médecin libéral, il doit gérer son cabinet. Voilà. les frais de gestion sont devenus de plus en plus insupportables pour ceux qui restaient, donc ça n'attire plus, et les jeunes médecins, peut-être faisant des choix de vie, comme on l'a dit, moins de consultations, moins de finances, etc. Donc, on en est arrivé au point où ce n'était plus viable. Et si vous voulez, quand à un moment donné, donc c'est en 2017-2018, où dans la presse on voyait que catastrophe, la maison médicale allait fermer, tout le monde avait bien vu que déjà on n'arrivait plus à avoir des rendez-vous, on ne pouvait plus être pris, des personnes étaient sans médecin, enfin tout le monde a bien vu la dégradation, mais alors là qu'elle ferme, c'était la grande panique. Hein, d'autant plus qu'il y avait un projet immobilier juste après. C'est là que nous avons commencé à bouger. Voilà. Et nous étions éparpillés, hein, il n'y avait rien du tout comme structure. Hein. Mais on a commencé par un débat avec le maire de Châtillon-Valois et le docteur Yvon Dahan, qui était le coordonnateur de cette maison et qui nous a expliqué. Que je vous ai résumé très vite. Hein. Et là, la commune de Crépy-en-Valois, enfin, partenaire, dit qu'eux, ils ne pouvaient pas aider une maison médicale qui était une structure privée. Et on a vu ailleurs que d'autres choses s'étaient faites, mais eux, ils ont dit non. Et leur projet, c'était de demander à la polyclinique Saint-Côme de Compiègne de venir monter un projet à Crépy-en-Valois. Mais tout le monde connaît la polyclinique pour ses spécialistes, sa chirurgie, mais pas pour ses médecins généralistes.
C'est Frédéric, je suis actuellement à Baie, où a lieu un débat sur le manque de médecins dans le ancien canton de Baie. Il y avait eu une réunion au mois de mars, là c'est les résultats de l'enquête. C'est organisé par l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le pays de Valois. Et ils ont un invité, le docteur Richard Lopez, qui est président de la fabrique des centres de santé.
Aider les jeunes qui ne sont pas issus de catégories sociales défavorisées à travailler et à faire des études de médecine. Qui est-ce qui est intéressé par une bourse ? Ceux qui n'ont pas de fric. Quand on regarde les facs de médecine, c'est l'image inversée de la société. Donc c'est évident que... Très honnêtement, moi, mes enfants, s'il y en a un qui veut faire médecine, c'est pas la bourse qui va le passionner. Sauf si je me fâche avec lui et que je le fous dehors et que là, il se retrouve le bec dans l'eau et qu'il faut bien qu'il se démerde. Mais en général, sont intéressés ceux qui n'ont pas de fric. Mais ceux qui n'ont pas de fric s'engagent déjà et peuvent le faire. C'est pas les plus nombreux dans les bourses. Mais ça ne dure que 5 ans. Après, pour corriger ce qu'a dit Hélène, le nombre de postes au concours a augmenté, mais encore faut-il qu'on augmente les postes dans les facs. Ce n'est pas dans les facs qu'il faut augmenter les postes, c'est à l'hôpital. Parce que les étudiants sont formés à l'hôpital. Et on souhaite que les étudiants soient formés à l'hôpital ou chez le médecin en ville. Parce que c'est là qu'on apprend la médecine, ce n'est pas à la fac. Et, or, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais je crois que dans les 5 dernières années, un président de la République a fermé plus de 17 000 lits d'hospitalisation. Et que auparavant, ça avait été encore pire, et que on a fermé des hôpitaux entiers, des services dans des grands hôpitaux. Donc il y a de moins en moins de places de disponibles pour former les étudiants. La politique de réduction, quand vous prenez deux petits hôpitaux, enfin petits, Bichat-Beaujon à Paris, on en fait un hôpital nord, mais on le fait maigrir de 20% des lits. Voilà, donc c'est sûr que ce n'est pas la dynamique qui va permettre de favoriser. Alors on peut annoncer, on supprime le numerus clausus, mais le nombre de postes au concours est décidé non pas par l'État, il est décidé par les hôpitaux, par les facs, les CHU, et qu'il le détermine en fonction du nombre de postes sur lesquels on pourra mettre des étudiants en formation. Point. Donc pour l'instant, c'est du pipeau, l'ouverture des... Et quand on nous dit, voilà, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ben, ils vont être formés.
Chez le garagiste.
Peut-être, ou chez le plombier, parce que pour faire cardiologue, finalement, c'est de la plomberie, hein, c'est de la tuyauterie. L'organisation de l'ambulatoire C'est vrai que c'est quelque chose qui a été fortement marqué par des choix stratégiques qui ont déterminé que la médecine en France, elle était libérale. Et libérale, c'est un système économique. Ça veut dire que ça correspond à une organisation. C'est la liberté d'entreprendre. Les médecins se sont organisés depuis la première loi sociale qui a été déposée à l'Assemblée nationale en 1921. Imaginez, c'est pas d'aujourd'hui. On a récupéré à la fin de 1914, en 18, on a récupéré les trois départements d'Alsace et de Moselle qui avaient été piqués odieusement par les troupes teutones en 1871. Et ces enfoirés de teutons, et en plus, ils ont fait en plus une réforme avec un premier ministre qui s'appelait Bismarck et qui était la meilleure réforme de l'organisation de la société et, de, et du système de santé et de protection sociale. Donc comme quoi les hordes teutones avaient permis de faire un certain nombre d'avancées. Mais le système bismarckien de protection sociale et de médecine était tellement bien que lorsqu'on a récupéré les Alsaciens et les Mosellans, ils ont dit « nous, on veut revenir en France, mais on ne veut pas perdre ce qu'on avait ». Donc ils ont bien été obligés de trouver une solution et ils ont fait une proposition de loi pour étendre, ce qui était génial parce que c'était vraiment quelque chose de super, étendre le système bismarckien à l'ensemble de la France. En France, il n'y avait rien. C'était... les gens, ils avaient besoin d'aller chez le médecin, il fallait qu'ils sortent le fric. Et vous voyez, donc ils n'y allaient pas. Donc c'était très dur. Et donc là, la mise en place de ce système-là obligeait les médecins à un certain nombre de contraintes. Il fallait qu'ils aient des tarifs et ils étaient payés par les caisses de sécurité sociale. Ils ont dit on n'en veut pas. On se battra contre. Et ils ont bloqué la loi de 1921 jusqu'en 1928. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent, qu'elle soit complètement vidée de tout ce qu'ils avaient demandé. C'est-à-dire, ils disaient, les principes de la médecine libérale, c'est le médecin se met d'accord avec le patient sur le tarif de la consultation. Ça s'appelle entente directe. Le patient paye directement au médecin. Ça s'appelle paiement direct. Le médecin a le droit de prescrire ce qu'il veut. Le médecin est respect du secret professionnel. Et il y avait... ces principes qui étaient bloquants pour la mise en place de la nouvelle loi sociale. Ils se sont créés en premier syndicat, la Confédération des syndicats médicaux de France, pour bloquer la loi. Et ils l'ont bloqué. Il n'y a pas eu, avant la Deuxième Guerre mondiale, projet de loi du Conseil national de la Résistance de mettre en place la sécurité sociale. C'est exactement le même système. Mais cette fois-ci, on n'a plus demandé aux médecins, parce qu'ils s'étaient un petit peu décrédibilisés pour un certain nombre, notamment avec l'ordre des médecins qui avait été créé par Pétain. Donc il y avait un petit contentieux. Donc ils se sont tués. Mais comme c'était un système qui s'appuyait sur une obligation quand même d'un accord entre les médecins et l'assurance maladie pour un tarif, puisque la Sécu doit bien rembourser, mais elle rembourse sur la base d'un tarif. Et le tarif doit être le même pour tout le monde. Donc il y avait une obligation de négociation. Et là, je vous ai parlé des premières négociations qui ont duré de 21 à 28. Là, la négociation en France, ça a duré de 1945, date de création de la Sécurité sociale, à 1971, c'est-à-dire 26 ans de blocage par les syndicats médicaux libéraux pour mettre en place la première convention médicale nationale. Les principes fondamentaux de la médecine libérale. Dans l'intérêt du patient, ils ont introduit ça dans la loi, article L162.2 du Code de la Sécurité sociale. Je m'en souviens par cœur de cet article parce que ça me fout les nerfs, parce qu'il commence, c'est le seul article de la loi en France qui commence par « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le système médical libéral ambulatoire repose sur les principes suivants. » Et la liste des principes de la médecine libérale. Ce qui fait que, gravé dans la loi ce système-là, on a dit « Seule la médecine libérale est légitime en France pour exercer la médecine pour la population. » Seule. Et dans la convention libérale de la première convention de 1971, article 18, pour permettre que les médecins ne démissionnent pas, parce que tous les médecins étaient obligés d'être adhérents à cette convention, donc les syndicats devaient s'engager à ce que les médecins ne démissionnent pas, et en échange, l'assurance maladie s'engage à ne pas aider les centres de santé. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Une raison simple, c'est que la seule organisation, la seule forme de médecine qui pouvait échapper au lobby médical, et qui était un outil, je dirais, de contre-pouvoir par l'État, ils se tirent une balle dans le pied puisqu'ils ont laissé complètement les clés du camion et tout le camion aux libéraux et on dit, ben voilà, maintenant c'est vous qui organisez la médecine de ville pour, à l'époque c'était 40 millions d'habitants, maintenant c'est pour 67 millions d'habitants, c'est les libéraux qui les décident seuls, avec, avec la sécurité sociale. Et ils bloquent toujours. Donc il ne peut y avoir qu'un changement. On va arrêter de considérer que la médecine libérale est la seule forme de l'exercice de la médecine. Et il faut que l'on mette en place une autre organisation qui relève de la responsabilité de l'État, mais là au sens réel, c'est-à-dire je prends la décision de mailler le territoire avec une organisation de médecine ambulatoire salariée, de service public, et les libéraux, ils s'organisent comme ils veulent, ils peuvent continuer de s'installer où ils veulent, mais moi je garantis que dans tous les territoires de France, il y a au moins un médecin accessible à, aux habitants. Je le garantis. Et je le mets dans une forme que je suis le seul à pouvoir le faire, c'est-à-dire je crée un service public. Mais ça, c'est les libéraux, ils sont les pieds sur le frein là-dessus. Parce qu'ils perdent tous les pouvoirs. Parce que quand il y a des déserts, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils négocient les tarifs, ils négocient des avantages, et donnez-moi des aides pour m'installer, et payez-moi la secrétaire, parce que ça se fait maintenant, payez-moi la secrétaire, l'assistant médical, pour que je puisse venir. Maintenant, ils viennent voir les élus locaux, vous me payez la maison, vous me donnez le matériel, monsieur l'État, vous m'exonérez d'impôts, madame le maire, vous me payez la bagnole pour aller faire les visites à domicile, parce que sinon je ne fais pas de visite à domicile. Et là, le rapport de force, il est à sens unique. Donc c'est un leurre de dire il faut obliger les médecins à venir s'installer tant que l'on n'a pas mis en place un autre système qui dit vous faites ce que vous voulez, mais moi je maille et je garantis l'accès par un réseau. Un centre de santé pour 10 000 habitants, un centre de santé c'est 5 médecins généralistes, une infirmière en pratique avancée, psychologue, l'articulation avec le service public hospitalier pour ce qui concerne l'accès aux spécialistes, la télémédecine pour permettre d'une façon fluide dans un certain nombre de situations. J'ai une plaque pas bien sur la peau, le dermato, là pour aller chez le dermato, c'est où ici? Voilà. Donc là, j'ai des appareils qui permettent d'envoyer par des photos dans de bonnes conditions à un dermatologue, que ce soit de la télémédecine. À Paris, à l'hôpital Saint-Louis si je veux, ou à Compiègne ou ailleurs, et j'ai la réponse tout de suite. Et si c'est nécessaire, on me donne la réponse et on me dit organisez le rendez-vous parce que c'est un merdeau mais il faut l'enlever, on vous donne le rendez-vous dans les 15 jours. Comme ça, les services hospitaliers ils sont gagnants parce qu'ils ne sont pas englués par des demandes de dermatos de tout venant. Et nous, on fait notre travail avec les habitants, on dépiste précocement, et à l'hôpital, ils utilisent le plateau technique pour le geste technique. Donc là, on est dans de la bonne médecine. La médecine est politique dans l'organisation sur le pays. La médecine à titre individuel, c'est de la pratique, c'est un métier. Mais l'organisation du système de santé, c'est une décision politique.
Alors moi, je voudrais maintenant qu'on arrive à la conclusion de notre réunion. Nous, on n'a pas, on a rien de magique là. Mais nous, on est parti de zéro à Christian Lavoine. Et nous n'avions aucun élu qui soit, qui avait envie de faire l'expérience avec nous, de continuer avec nous. Hein? Ici, des élus ont participé au premier débat, se sont rencontrés. Moi, ce que je vous propose en tant qu'habitant, en tant que citoyenne et citoyen, c'est, disons, de vous regrouper ou pas, enfin, c'est comme vous voulez, mais de rester en contact, de rester en contact. Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est de créer une association, de rester en contact. Donc notre association peut être un outil, hein, on peut avoir un petit comité de canton de Bay, hein, peu importe. C'est surtout pour que vous continuez à vous informer, à informer vos voisins, vos voisines, et que, en quelque sorte, les usagers et les usagères soient, considérés dans leurs demandes auprès des pouvoirs publics. Parce que si, on ne sait pas ce que décideront les élus, mais si ils décident, c'est donc des collectivités, c'est des communes, et donc il faudra bien des aides financières, un soutien, puisqu'on en donne aux médecins libéraux, pourquoi on n'en demande pas aux centres de santé? Sachant qu'aujourd'hui, ce n'est plus la situation qu'a décrite le docteur Lopez, puisqu'il y a des communes, des communautés de communes, etc., qui sont soutenues par leur département, leur région. Voilà, hein, maintenant, c'est une autre situation parce que les centres de santé ont fait la preuve de leur efficacité. Je ne sais pas encore comment ça va se traduire, c'est à décider ensemble à un moment ou à un autre. Mais donc, moi, ce que je propose, donc, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez reçu un mail personnel, donc on a votre contact. Certains mails nous sont venus parce que, voilà, on n'a pas besoin de chiffrer. Si vous n'avez pas laissé votre mail personnel, qui voulait continuer non seulement à vous informer, mais être partie prenante d'une initiative, d'une action, d'une interpellation, voilà, collective, eh bien, je vous invite à laisser vos coordonnées. Nous, nous nous tenons en relation avec Madame Doléan, qui est maire de B. Mais moi, je suis persuadée que si les maires qui sont, comme le disait tout à l'heure, le docteur Lopez, un peu interpellés par leur population, s'ils sentent qu'il y a un soutien de leur population pour aller vers une solution, bah, finalement, publique, hein, si c'est les communes qui prennent, ce sera public. Et d'autant plus que, comment dire, la différence avec le centre de santé de Créteil-en-Valois, c'était une association de gestion qui a été créée pour l'ouvrir. Là, si ce sont des collectivités, des communes, elles ont droit aux subventions de la communauté de communes, du département, de la région, dans leur projet d'aménagement de leur territoire.
Si donc, elles sont propriétaires du bâtiment, si elles sont propriétaires.
Voilà.
Si on n'est pas propriétaire.
On a parlé, de l'ancien canton de Bel, bien sûr, maintenant c'est avec Monteuil. On a dit qu'il y avait 3 médecins, 3 âgés, 13 000 habitants, donc il manque au moins une dizaine de médecins. Et on n'est pas reconnu par l'ARS comme des certifications médicales.
Tout à fait.
Pourquoi? Alors les critères.
On a un gros. Il y a un gros problème, c'est que le territoire de. Votre territoire. Et à cheval entre Nanteuil, Crépy, où il y a une densité médicale qui est considérée comme suffisante. Mais il y a eu une évolution. Avant, ce territoire était considéré en zone neutre. Maintenant, il est devenu en zone d'action complémentaire. Ça veut dire qu'il y a une dégradation. La partie sud du territoire dont je vous ai parlé, Assis, je crois, c'est ça ? Toute la bande qui est au sud de ce territoire, Assis, je ne sais pas quoi.
Assis,
voilà, c'est ça. Donc les 4, 5, 6 communes qui sont dans cette bande-là sont en zone d'intervention prioritaire. Mais c'est, les zones d'intervention prioritaire, c'est, il y a un pourcentage national d'habitants qui doivent être répartis dans ce territoire. Les ARS essayent de faire vous savez, le jeu du pouce-pouce, là, ou du bonneto, tiens, on va passer, on va mettre, bon, on a 30% pour notre département, on va essayer de le mettre là où il y en a le plus besoin. Et donc, l'ARS a pris le taux national, et ils ont dit, on va rajouter une zone d'action complémentaire où on va verser, nous, sur le budget de l'ARS, alors que les autres aides, c'est sur le budget de la Sécu, on va verser sur le budget de l'ARS les aides pour l'installation. C'est tout le Compiénois qui est concerné, alors que Compiègne, c'est une très grosse commune, il y a énormément de médecins, mais c'est devenu une zone d'action complémentaire régionale, c'est-à-dire que là, il finance complètement les installations. Toute la partie ouest du département, pratiquement, est en zone complémentaire financée par l'ARS, parce que ça ne suffit plus et que maintenant, l'effondrement, c'est pas fini. Hein. La baisse du nombre de médecins. Là, il nous reste encore 5 ans, d'après les projections de la Direction régionale des études statistiques, l'adresse, pendant 5 ans encore, le nombre de médecins va baisser, au nombre absolu. La population continue de monter. Et on a donc projeté également qu'on retrouvera la densité de médecins de 2010 qu'en 2050. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que En 2010, on était déjà dans la merde. Donc, on en a encore pour, allez, 30 ans. Donc, la dégradation, mais quand on aura fait toute la France en zone d'intervention prioritaire, je ne suis pas certain que ça changera quoi que ce soit.
Est-ce qu'on peut avoir un compte rendu des élus, ce qui s'est dit, et quelles décisions vous allez prendre ?
Je ne sais pas. Alors, je pense que comme la rencontre
qui va avoir, comme les élus qui sont dans la salle, on peut peut-être leur poser la question, qu'est-ce qu'il en est de vos discussions et qu'est-ce qu'on peut avoir comme évolution dans quelques temps ?
C'est pas prévu.
Donc, à la suite de la radio publique du mois de mars, les sept maires présents, on a décidé de se rencontrer au niveau des maires du canton. Sauf que, on n'était pas très nombreux parce que c'est une problématique qui commence à frémir. Quand vous aviez rencontré le président de la communauté de communes pour le centre de santé de Crépy, c'était niette, rien du tout. Et là, il dit oui, si on peut aider à l'achat de matériel, à la peinture, à machin, à truc. Voilà. Donc du coup, là, ils sentent que ça a frémi, qu'il y a un truc qui se passe. Donc les maires du canton, ben, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc là, on a commencé à se rencontrer déjà entre nous, ben, pour se connaître, de savoir la problématique, de savoir tout ça. Et donc là, on rentre dans le concret avec la réunion avec Richard Lopez, qui va nous expliquer c'est quoi un centre de santé, comment on peut faire un centre de santé, parce qu'on est tous collectivité publique, mais le bâtiment AB appartient aux médecins. Les anciens cabinets de M. Boulan ou de M. Bell appartiennent maintenant, le bâtiment appartient aux dentistes, voilà, pas aux médecins mais aux dentistes. Donc du coup c'est une propriété privée et nous c'est collectivité publique. Madame la présidente du département que j'ai vu cet après-midi m'a dit on finance les bâtiments publics, on ne finance pas les bâtiments privés. Donc du coup il faut qu'on achète entre guillemets avoir les deux locaux.
Ils sont drôles parce que, par contre, de financer l'activité d'un médecin libéral qui est dans le secteur privé, ça ne leur pose pas de problème. Parce que les subventions qu'ils donnent, il y a un prêt à taux zéro et une subvention, un don, l'argent. Hein.
Non, 50 000 euros remboursables en 5 ans.
Ça, c'est le prêt. C'est pas un don. Mais il y a aussi, si. Ah, il y a les deux. Ah oui, oui.
Non,
il y a les deux.
Je sais. Non,
bon. Et donc, c'est pour dire que le privé, ça dépense quoi. Hein.
Donc en fait, il faut trouver d'abord un local.
Non, mais il faut qu'on fasse tout en même temps. Il faut qu'on se réunisse entre maires, qu'on décide de créer. Bah, Monsieur Lopez va nous dire tout à l'heure de quoi, quelle structure. Est-ce que c'est un CRPI, un CIBOM, un machin, un truc, un groupe plan d'intérêt public ? On n'en sait rien. Comment ça peut s'articuler ? Voir avec les dentistes qui sont propriétaires, qui sont d'accord pour qu'il y ait des médecins, pour qu'il y ait un centre de santé, pour qu'il y ait, enfin, ils sont partants. Mais comment ça peut s'articuler avec eux qui sont privés, nous qui sommes publics ? Combien il y a de mairies qui vont vouloir participer, mettre au pot commun pour acheter le bâtiment, pour le matériel, pour tout ça, voilà. Donc tout ça, on ne fait pas ça, on n'est pas tout seul dans les collectivités, ils sont tout seuls. Là, on est 25 maires, les 25 communes. Donc du coup, voilà, il faut qu'on soit au moins une dizaine à dire, ben voilà, on y va.
Et ça serait en plus de l'accueil de Crépy.
Ouais. Ah oui, c'est indépendant.
C'est un centre de santé AB. En coordination avec Crépy, mais AB.
AB on en parlera plus en détail parce qu'on avait quand même travaillé un petit peu avec le docteur Lopez pour une projection de ce qui serait possible sur l'environnement. Voilà. Donc je vous propose, soit vous laissez vos coordonnées, soit...
On est quand même en discussion avec le centre de santé de Crépy pour qu'il y ait au moins quelques jours ou après-midi par semaine pour venir ouvrir le cabinet médical à B. Mais ça, ça donc, reste leur interdit plus de 2 demi-journées par semaine. Il y a plein de
merci à tous.
Merci bien.
C'était Frédéric qui était à la salle polyvalente de Baie où avait lieu un débat autour de la santé, autour du manque de médecins sur l'ancien canton de Baie. Un débat avait été organisé au mois de mars et aujourd'hui, donc 21 juin, c'était le retour de de ce premier débat avec le résultat d'une enquête qui avait été menée sur l'ancien canton de Bay. C'était organisé par l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois et avec un invité, le docteur Richard Lopez, président de la Fabrique des centres de santé. Vous avez pu aussi écouter le maire de Bay, Madame Doléance. Je vous dis bonne écoute sur RVM 93.7.
Grain de sel, une émission de la rédaction. Grain de sel.